Jusqu'au 27 novembre a lieu la 5e édition des Rencontres à l'échelle, manifestation pluridisciplinaire portée par les Bancs Publics, lieu d'expérimentation culturelle situé à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. Dans cette nouvelle édition, nous vous avons déjà fait part de la propension à susciter des projets destinés à franchir la frontière liquide qu'on appelle Méditerranée. C'était autour du dispositif mythique.med. Nous avons aussi pu, il y a quelques jours, saluer l'attention toute particulière aux écritures algériennes contemporaines en recevant, et avec grand plaisir, le dramaturge Mustapha Benfodil. Aujourd'hui, c'est un travelling cinématographique vers le Moyen-Orient qui nous donne l'opportunité de cette rencontre sur ce plateau entre deux réalisatrices, Hala Al-Abdallah et Monica Borgman. Syrie, Liban, ce n'est pas tant de géopolitique dont nous allons parler que d'intimité, de cette qualité rare qu'a l'intime de révéler le drame dans l'histoire, de porter sur lui un regard qui est d'autant plus aigu, implacable même parfois, qu'il n'est ni commentaire ni jugement. Dans l'intimité de deux films, pour cette discussion, Massacre de Monica Borgman et Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe d'Hala Al-Abdallah. Et pour co-animer avec moi cette rencontre, Nicolas Féodorov, critique d'art et de cinéma, collaborateur fidèle du FID, Festival international du documentaire. De documentaire, en effet, ces deux films, de documents sur l'histoire contemporaine de la Syrie, du Liban, de cet Orient que l'Europe regarde avec une condescendance qui cède parfois à la nostalgie quand il s'embrase, en soupirant peut-être au souvenir de ces grands incendies. Après la guerre, le massacre, vient le temps des cendres froides, la gêne, le vertige, la perte de contrôle, les résiliences, les non-dits. C'est la bombe d'après-guerre, celle dont le plomb fondu moule les masques impassibles des bourreaux, celle qui dissémine ses sous-munitions entre les mains des enfants grandis trop vite, prête à péter à chaque instant, ici ou là, plutôt là, Inch'Allah. Après la guerre, le massacre, un film, Massacre, un film physique qui vous travaille au corps. Dans une minute, je vais proposer à Monica Borgman de nous en dire un petit peu plus sur le sujet et le dispositif que propose ce film. Mais tout de suite, je vous propose qu'on en écoute un extrait. Massacre, dont on vient d'entendre un extrait, Massacre, un film de Monica Borgman. C'est l'évocation du massacre des camps palestiniens de Sabra et Shatila. Je crois que c'était en 1982 et c'était au Liban. Et l'évocation de ce massacre, elle est faite par 6 personnes qui y ont participé. Enfin, je veux dire qu'ils ont perpétré, participé à cette horreur. Alors peut-être Monica Borgman sur la façon dont vous les filmez, ces témoins, ces participants, sur le dispositif de ce film. Monica Borgman.
Bon, le film, bien sûr, le film traite le sujet du massacre de Sabra et Shatila, mais pour moi, c'est beaucoup plus un film qui fait le portrait de 6 personnes qui ont participé à la tuerie. Le film est beaucoup plus un essai, quelque part, sur la violence collective que la reconstruction pure et dure du massacre lui-même. Et la guerre du Liban a fini en 90. Il y avait une loi d'amnistie. Il n'y avait jamais eu un travail de mémoire. Il n'y avait pas de, comment dire en français, accountability. Et les bourreaux de la guerre, de ce massacre ou des autres massacres, n'étaient pas punis. Ils vivent aujourd'hui entre nous. La loi d'amnistie a provoqué aussi que personne n'a jamais vraiment parlé de la guerre. Et bien sûr, ces personnages n'étaient pas prêts de montrer leur visage. Par conséquent, j'ai décidé de travailler beaucoup plus sur le corps. Ça veut dire, dans le film, les visages sont noircis. On a tourné dans le sombre. Et la caméra se rencontre sur le corps. Et pour moi, pour dire la vérité, au début, j'avais pensé que c'est peut-être un désavantage de ne pas montrer les visages. Mais finalement, ce langage esthétique, le langage du corps, pour moi, c'est devenu un avantage parce qu'il a rendu le film plus universel. C'est pas seulement pour moi aujourd'hui... Déjà, pour moi, c'est pas important si le spectateur comprend, s'il voit 5 personnes, 5 hommes ou 7 hommes. Il fallait avoir plusieurs personnes pour ne pas créer aussi de stéréotypes d'un bourreau. Mais je crois le film a pris pas le fait qu'on voit des corps, et pas les visages, une dimension plus universelle. En plus, il y a un autre point, c'est pas facile de traiter avec les bourreaux. Et il y a cette façon de dire c'est le diable, etc., etc. Mais finalement, ces hommes-là, ils ont fait les actes plus qu'inhumains peut-être, mais ce sont des humains. Et parce que la caméra filme avant tout des corps qui sont poilus, des corps avec de sueur, des corps dans toutes leurs formes, je trouve que le film devient aussi plus fort parce que ça souligne le côté humain du bourreau.
Un film en tout cas qui nous travaille au corps, qui laisse un très fort impact sur le spectateur. Je voudrais demander peut-être à Nicolas Féodorov s'il a le souvenir de la première fois où il a vu ce film et dans quel état il se sentait après la projection. Nicolas ?
Alors non, la première fois effectivement je suis absolument désolé mais je n'ai pas de souvenir précis sur ce film-là. En revanche, j'ai un souvenir très précis, effectivement, sur ce que soulignait Monica, cette question des corps, des bourreaux, les bourreaux qui ne nous épargnent aucun détail de ce qu'ils ont pu faire endurer à leurs victimes, les détails les plus horribles les uns que les autres. Et effectivement, je ne sais pas si c'est une dimension universelle, en tout cas, moi, je le perçois comme, en tout cas, une dimension collective, parce que il y a ces corps qui se mêlent, on passe de l'un à l'autre, on est dans un espace, on passe d'une couleur à l'autre, on dit tiens, c'est un tel, puis c'est pas un tel, on le reconnaît, on le reconnaît pas. Donc on est pris dans un espèce de maelstrom de l'horreur dans ce qui est dit, et puis cette horreur qui est peut-être d'autant plus forte qu'il y a les corps de ceux qui sont là, qui ont commis ces actes, qui sont vivants, qui ont un corps et qui nous parlent de corps des autres qu'ils ont maltraités. Donc espèce d'aller-retour comme ça qui se fait d'un corps à l'autre et qui ne peut que résonner dans notre propre corps aussi, à nous de spectateurs coincés en quelque sorte sur notre fauteuil.
Un langage corporel qui exprime aussi dans ce film peut-être quelques-unes des fractures ou des fêlures qui leur restent malgré tout. On imagine que leurs visages sont impassibles, qu'ils restent de marbre à l'évocation de ces souvenirs terribles. Pourtant, parfois, on surprend une jambe qui tremble un peu. C'est comme si leur corps révélait, au fond, quelque chose d'un trouble intérieur malgré tout.
Oui, et quelques années avant, l'idée n'est pas tombée comme ça. Moi, j'avais, pour la radio, fait quelques années avant un portrait d'un franc-tireur. Et j'ai simplement enregistré audio et je regrettais de ne pas avoir une caméra parce que je sentis tout le temps que l'expression corporelle était même plus juste, plus directe que souvent les mots. Et comme dans le cas de Massaka, on ne pouvait pas montrer les visages, c'était vraiment l'occasion de prendre ça comme principe esthétique.
Un film qui semble répondre au canon du théâtre en même temps, de la tragédie même sans doute, avec une unité de lieu très forte, un lieu clos, un huis clos, une unité de temps. Il y a quelque chose d'une tragédie dans ce film, selon vous ? Qui est pourtant un documentaire, un cinéma du réel.
Oui, il y a pour moi une tragédie et c'est dur d'accepter, il n'y a pas de regret. Et on m'a souvent posé la question, est-ce que c'est une question de montage ? Et la réponse est, ce n'est pas une question de montage. J'ai eu 60 heures et dans mes 60 heures de rachis, il n'y a pas de regret. Et ça, personnellement, c'est peut-être la chose la plus dure à admettre qu'après... des années après le massacre, où je ne dirais pas que ce sont des années de la paix, mais quand même c'était des années qui étaient beaucoup plus calmes que toute la période de la guerre. Cette réflexion sur les actes qui en a commis n'a pas eu lieu. En même temps, il y a un besoin de partager l'expérience. Ça veut dire la chose... D'un côté, c'était difficile de trouver ces hommes. Après, c'était encore plus difficile de créer une relation de confiance avec eux, dans le sens qu'ils sont prêts à se laisser filmer. Mais une fois cette confiance était là, le besoin de parler était aussi très fort. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de partager cette expérience, de s'exprimer, mais en même temps, il n'y avait aucun regret. Et ça, je trouvais personnellement très tragique. C'est ça qu'est-ce qui m'a bouleversé le plus.
Nicolas, sur cet aspect de tragédie du film, tu l'as ressenti aussi ?
Tragédie, je ne sais pas, sur cette unité de lieu, en tout cas ce que je vois, c'est un lieu qui a l'air d'être à la fois, je dirais, anonyme, on ne sait pas exactement si c'est toujours au même endroit, peut-être que Monica pourra nous répondre sur le lieu exactement. En tout cas, un lieu totalement dénudé, un lieu qui est, je dirais, mouvant, ne serait-ce qu'il y a une espèce de travail de couleur, ce qui fait qu'on est dans une forme d'irréalité, peut-être qui adoucit un peu les propos qui sont tenus par ces personnes. Et puis, me semble-t-il aussi, alors c'est, je pense, un des enjeux du film, c'est filmer l'ennemi. Ça, c'est toujours une question très complexe, mais essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans la tête de l'ennemi ou de quelqu'un qui, alors, a pu à un moment donné basculer dans autre chose, mais là, visiblement, ces personnes-là y sont encore. Elles n'en sont pas sorties ils sont pas sorties de cet état d'esprit. Et que de se filmer l'ennemi, donc, encore impliqué dans ce processus, l'ennemi qui, comme le soulignait Monica, donc il n'y a pas eu de procès, donc il n'y a pas eu de quelqu'un qui à un moment donné a dit voilà, il y a eu des actes comme ceci, comme cela, qui sont condamnables et un tel est condamné, donc une espèce d'amnistie, et que cette amnistie, d'une certaine façon, perpétue dans un éternel présent ces actes-là, et ce qui, me semble-t-il aussi, est souligné par que l'on entend, on entend la ville, on entend des bruits du dehors, donc on n'est pas dans un lieu clos, on n'est pas dans une cellule, même s'il semble totalement enfermé dans cet espace-là, on est dans le présent aussi, le présent à la fois du récit, et puis le présent du moment du récit, donc on est dans cet échange de temporalité qui fait qu'effectivement c'est un des éléments qui rend ce film absolument terrifiant et saisissant, et je dirais aussi indispensable.
L'intimité de ce lieu, de ce huis clos, reste pour eux à l'extérieur. L'intimité, ça n'est pas quelque chose qui est un repli sur soi. Peut-être, Monica Borgman, sur la relation intime, peut-être que vous avez avec ce pays, le Liban, on l'entend peut-être à ce micro, vous êtes d'origine allemande. Quelle relation, quelle intimité avez-vous développée avec ce pays? Dans quel contexte?
C'est une longue histoire. Mais disons, j'étais en Israël juste avant le massacre de Sabra et Shatila. J'étais très jeune. J'étais en Israël dans un programme de réconciliation allemand-juif. Et ça, c'était pendant l'invasion israélienne 82. Je rentre en Allemagne, j'étais encore à l'école et le massacre a eu lieu. Peut-être sans avoir un passé très spécial dans ma famille, j'étais toujours très sensible à la question comment quelqu'un devient violent. Et ça, c'est peut-être la question qui me travaillait énormément. Quand j'ai commencé de travailler comme journaliste, je travaillais sur cette question d'une manière différente. Je faisais ce travail sur le front tireur. C'était sur la violence quelque part individuelle. Je travaillais longtemps sur le film de Eyal Siwan, un spécialiste. C'était la violence administrative. Et je voulais finalement travailler sur la violence collective. Mais enfin, et j'ai connu le Liban, je suis allée la première fois au Liban en 86, c'était encore pendant la guerre. Après le massacre de Sabra et Shatila, il y avait des autres guerres qu'on appelle les guerres des camps. Et ça, c'était la milice Amal qui avait attaqué dans ce moment-là des camps palestiniens. Et Sabra et Shatila, je connus juste après ces guerres du camp. Et les camps étaient encore entourés par la milice Amal, par l'armée syrienne. Et moi j'étais très jeune dans ce moment-là et ça m'a profondément influencée. Quand je voulais faire quelque chose vraiment sur la violence collective, à cause vraiment d'une histoire très personnelle, j'ai choisi le massacre de Sabra et Shatila.
Une relation intime avec ce pays qui passe à la fois par la violence et la réconciliation. Je voudrais peut-être proposer à Hala Abdallah de nous dire à propos d'intimité et des relations, peut-être en particulière entre le Liban et la Syrie. Je rappelle que vous êtes d'origine syrienne. Une relation étrange, là aussi, intime peut-être, entre le Liban et la Syrie, Hala Abdallah.
Oui, je suis syrienne, pas seulement d'origine. Je pense qu'il y a
Vous vivez à Paris.
Oui. Je pense qu'il y a un rapport très très compliqué, très complexe entre la Syrie et le Liban. Et ça a été depuis très longtemps, depuis l'indépendance des deux, parce qu'on était un seul pays avant. Et je pense que c'est un élément à travailler, c'est un élément très riche à développer. C'est le rapport, surtout le rapport culturel et le rapport politique. Et on essaye un peu de changer l'image qui domine depuis maintenant 20 ans. Que la Syrie a occupé le Liban, que la Syrie a profité de ce pays démocratique, que la Syrie a eu peur à un moment d'avoir un pays qui développe vraiment une politique démocratique laïque. Et donc, c'est un vrai travail qui est en train de se développer depuis 2 ou 3 ans entre les gens qui ont envie d'avoir des bons rapports et qui ont envie d'avoir une belle image qui est entre deux, comment on dit en arabe, les pays frères ou les pays sœurs. Donc il y a un travail sur place, un travail à suivre. pour parler de ce rapport intime entre, je peux dire, entre l'ennemi, c'est vraiment les ennemis intimes ou... Donc c'est vrai que ça existe.
Monica Borgman, des ennemis intimes qui essayent aujourd'hui de réapprendre notre manière d'être en relation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi je crois il faut, je le dirais avec des autres mots, je crois aucun pays peut échapper en long terme de faire vraiment un travail sur son passé. Et ça, c'est pour moi, peut-être c'est facile de le dire parce que ça, c'est la culture avec laquelle moi j'ai grandi en Allemagne, et on a eu besoin de le faire à cause du Holocauste et Hitler et la Deuxième Guerre mondiale. Et grâce aux Américains, dans le temps, on a eu le procès de Nuremberg. Et je crois que c'était vraiment une chance pour l'Allemagne. Et je veux dire, c'est quelque part la culture dans laquelle moi je grandis. Et je crois en long terme, aucun pays peut échapper de le faire. Et bien sûr, ça concerne sa propre histoire, ça concerne aussi les relations avec les voisins, relations intimes ou moins intimes. Et je crois au Liban, on voit très bien que la politique officielle de ne pas ouvrir le dossier du passé a échoué. Elle n'a pas évité des autres cercles de violence.
Je vous propose qu'on continue à notre exploration et qu'on écoute maintenant un deuxième extrait sonore, cette fois-ci issu de « Je suis celle qui portait des fleurs à sa tombe ». On se retrouve juste après. Galerie masculine de Massacre, répondent des portraits de femmes avec « Je suis celle qui porte des fleurs à sa tombe », un film de Hala Abdallah, un film où le réel en marge d'une fiction à venir, un film où peut-être aujourd'hui ressemblera à demain, on ne sait pas, Inch'Allah. Voici en tout cas dans ce film la balistique de l'exil, l'interminable trajectoire de la raison et du manque. des raisons de partir, de quitter la Syrie en 1981. Paris, tonton président, portrait de femme et d'homme à ce moment-là, c'est beau la vie quand on est deux. Ferme les yeux, je passe simplement, comme une aiguille, pendant que coulent tes pleurs. Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe et pleure de l'intensité de la poésie. Un poème, en l'occurrence de Daed Haddad, je crois. Un peintre aussi, votre amour. Poésure et peinterie, et surtout le léger tremblement d'une caméra. Hala, quel était le contexte politique de la Syrie quand vous l'avez quittée en 1981 ?
En 81, c'était le début d'un petit changement politique parce que à l'époque, on était des gens de gauche en prison et il y a eu vraiment une période assez dure, assez dense entre 75 et 80. Où il y a eu beaucoup de prisonniers politiques de gauche. Et en 81-82, c'était la montée des frères musulmans qui ont commencé à bouger, à faire des attentats, à un peu embêter le pouvoir politique. Et du coup, ils ont libéré les prisons pour les remplir de nouveau avec des gens de droite. Donc moi, en tant que militante de gauche à l'époque, j'étais en prison et j'étais libérée avec mon amoureux. Donc on a décidé de partir, finir nos études à l'étranger et comme ça, j'ai quitté avec lui pour aller en France.
Ce film, c'est aussi un hommage à cette résistance, finalement, quelques années après.
Tout à fait. C'est un hommage à cette résistance féminine, surtout. Et puis c'est un retour vers le passé pour aller un peu plus fort vers l'avenir.
Un film dont l'image a une qualité plastique tout à fait particulière. Je voudrais peut-être proposer à Nicolas Féodorov de la commenter, cette matière de l'image dans « Je suis celle qui porte des fleurs vers sa tombe ».
Alors cette matière, je ne suis pas au singulier, il y a beaucoup de matière je trouve dans ce film. Qui avait été montré, justement, on évoquait le film tout à l'heure, au FID en 2007, je crois, dans un écran qui s'intitulait « Film mais dit-elle », en hommage à Duras du « Détruire », dit-elle. Et donc ce film, moi, je trouve qu'il y a ce rapport très, très personnel, très intime. Alors là, ça peut sembler effectivement aux antipodes de Massacre, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, il y a bien évidemment des connexions qui peuvent se faire, c'est une caméra qui est parfois hésitante, qui cherche des traces, qui scrute les lieux, qui scrute les visages aussi, beaucoup les visages de ces trois amis interrogés sur lesquels vous insistez, parfois je dirais presque avec, pas cruauté, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous allez chercher quelque chose de leur propre expérience et de comment elles peuvent restituer leur expérience et ce qui semble-t-il vous aide vous aussi à restituer votre propre expérience dans votre parcours que vous faites dans cet aller-retour entre Paris et la Syrie. On s'était totalement emmêlé, donc ces temps comme cette géographie sont totalement tressés et je dirais presque impossibles à délier 30 ans après près de 30 ans après cet exil. Et donc il y a ce noir et blanc qui unifie tout, donc passé, présent, et puis, je le répète, cette façon de filmer au plus près, donc non pas tant les corps pour vos amis, mais les visages, on est très 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 près des visages, et puis cette caméra qui quand elle est dans les paysages, essaye de repérer des choses, de repérer des traces, de repérer des sensations, dans un tâtonnement, je dirais, très, très sensitif. Et un tâtonnement qui se dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il dit oui dans mon film j'aimerais bien faire ceci, ce film je l'ai fait parce que j'arrivais à temps, etc., etc. Donc on est dans un cheminement comme ça, une espèce de, non pas d'introspection, mais de retour vers soi, mais vers son propre passé. Et puis aussi, je pense qu'il y a une figure féminine qui est importante, même si on la voit un peu moins dans le film, qui n'était pas évoquée, c'est votre fille.
Sur cette dimension de tâtonnement, d'hésitation, de quête dans ce film, Alain, est-ce que c'est parce que finalement c'est difficile d'aller à la mémoire ?
Il y a ça, mais il y a encore une autre chose que j'aimerais bien signaler, c'est pourquoi j'ai fabriqué de cette façon ce film. J'ai dû vraiment fabriquer parce que moi, je suis arrivée à ce stade en travaillant pendant presque 25 ans dans le cinéma. Donc, j'ai eu le plaisir, j'ai eu la chance, j'ai eu la grande occasion de faire des films sophistiqués, de travailler avec des grands réalisateurs, de faire un travail très, très bien préparé. Donc, j'avais envie vraiment de me livrer vers une aventure et de faire une écriture qui ressemble beaucoup dans la... C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre la forme et le fond et le contenu très, très travaillé. Donc... apparemment, on a l'impression que c'est un film qui se fait comme ça, un peu dans le comme si on est en train de balayer plutôt les souvenirs. Mais en fait, c'est un film très, très construit dans le sens de tisser un rapport entre forme et contenu. Donc, pour revenir à
la difficulté d'aller à la mémoire, oui. De retrouver la mémoire, peut-être même une impossible mémoire.
Voilà. Moi, j'avais envie de montrer ça à l'image. J'avais envie que le public participe avec moi à cette quête et à cette recherche visuellement, de voir comment on peut avancer, comment on peut aller vers notre image, vers notre cadre, vers notre personnage, en hésitant, en cherchant, en troublant. Donc, c'était voulu et c'était... décidé en avant.
Est-ce que vous avez l'impression l'une et l'autre, Monica Borgman et Hala Al-Abdallah, que de ce point de vue-là, vos deux films sont un petit peu contraires ou opposés? D'un côté, cette idée que on ne peut pas oublier, on n'a pas le droit d'oublier la guerre, d'oublier ces massacres, il faut aller ressortir la mémoire, la provoquer, et puis peut-être de l'autre côté, dans ce film, la difficulté d'aller à la mémoire, le fait que au fond, la mémoire, c'est aussi un processus d'oubli, qu'on n'arrive jamais vraiment à retrouver ce qu'on a perdu. Est-ce que vous avez le sentiment l'une et l'autre que de ce point de vue-là, vos deux films sont vraiment sur deux postures très différentes? Monica Borgman?
J'ai l'impression beaucoup plus qu'ils ajoutent quelque chose à l'autre, dans le sens que d'un côté ce sont les visages, d'autre côté ce sont les corps. Et toute la question de la mémoire, c'est, elle peut avoir plein de formes, mais disons quelque part... Elle peut être cachée, elle peut être, je ne sais pas comment dire, Yanné, elle...
Je crois profondément qu'un produit ou un travail artistique, c'est un être vivant. Et je pense qu'on peut être on peut se ressembler, mais on peut aussi être complètement différent, même avec le même sujet. Et du coup, par exemple, Monica, elle vient d'un pays, entre parenthèses, démocratique. Et moi, j'ai vécu et j'ai grandi dans un pays c'est-à-dire avec un pouvoir militaire. Et on n'avait pas le droit à la parole, on n'avait pas le droit à l'expression, on n'avait aucune marge ni de se souvenir, ni de parler de notre présent. Donc, elle vient vraiment c'est-à-dire, on n'a pas du tout les mêmes bagages, ni culturels, ni... et du coup, on ne peut pas voir les choses de la même façon, on ne peut pas les traiter, même si on a envie, on ne peut pas. Moi, je ne peux jamais faire le film comme elle a fait, et je pense elle aussi. Mais en même temps, on peut dire que c'est des choses qui se ressemblent.
Des choses qui se ressemblent, qui se retrouvent en effet, peut-être au moins un point commun, il y en a sans doute bien d'autres, mais entre ces deux films, c'est l'attention portée aux détails. Il y a un de nos politiciens, et vraiment pas le meilleur dans notre pays, qui parlait des détails de l'histoire, il parlait des chambres à gaz, et il affirmait que ce n'était que des détails. Mais je pense au contraire que les détails, c'est l'histoire même. C'est dans les détails qu'apparaît l'histoire, bien au contraire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans chacun de vos deux films. Alain?
Oui, moi, je travaille beaucoup sur les détails et je pense que vraiment, c'est les détails qui font l'entier à la fin. Et il y a encore une chose, c'est pas seulement les détails, mais c'est le retour vers le jeu dans le JE qui est aussi très difficile à réaliser et qui est très difficile à développer dans un pays comme le mien. Et ça aussi, c'est un truc complètement différent dans un pays européen où le jeu est mis en valeur beaucoup plus que dans un pays sous-développé. Donc il y a ça aussi, je pense, qui montre la différence entre nous les deux.
Monica Bogman.
Oui, pour moi, les détails étaient extrêmement importants parce que même si je dis que le film fait le portrait personnel de ces six hommes, quand même, on ne pouvait pas se permettre de vraiment faire des fautes. Déjà, et en plus, on ne voit pas les visages de ces hommes. Et là, quelque part, je crois, la crédibilité du film vient aussi beaucoup des détails. Et c'était aussi, on a fait un effort de vraiment comprendre qu'est-ce que s'est passé sur place. Et je crois qu'on peut comprendre ça aussi, seulement pas les détails.
On continue cette discussion à propos de Massacre et Je suis celle qui porte des fleurs vers sa tombe, une émission spéciale dans le cadre de la 5e édition des Rencontres à l'échelle. On écoute un second extrait de Je suis celle qui porte les fleurs à sa tombe.
إنني لا أستسلم. نجحت بأعجوبة بإقناع طبيب السجن بأنني مصابة بمرض يستدعي عزلي. أعطى الطبيب تعليمات لكي أنقل إلى السجن الجديد حيث توجد زنزانة مع ماء ساخن ليس بعيدا عن يوسف. أصل في الليل، أقبية، ممرات، أبواب مغلقة، كل شيء نظيف وجديد. أدخل إلى زنزانتي مكاني الجديد، أرتب أشيائي الصغيرة، أستلقي على البلاط النظيف الثقيل، ألصق أذني ببلاطة وأبدأ بالإنصات. الشباب يغنون لي أغنية استقبال، أغنية للشيخ إمام. أفتح باب زنزانتي، أتقدم في الممر، أصل إلى مكان حيث لا يوجد سوى مغاسل. في الزاوية في الأعلى يوجد نافذة، أصعد فوق المغسلة، ألصق أذني بالنافذة وأبدأ بالإنصات. أصوات، نقاشات، أسعل، أهمس، أصرخ. أخيرا أحدهم فهم، يسألني من أنا. أشرح بسرعة بأنني أفتش عن رجلي الرفيق المجهول، ينادي يوسف. يوسف الذي لم يفهم شيئا بعد يسمع صوتي ويبدأ باستيعاب جنوني. أحكي مع رجلي، أمد يدي، أساعد ذراعي للخروج من النافذة. ذراعي معلق في الهواء، أديره بصعوبة باتجاه اليمين، باتجاه نافذة يوسف. يوسف يقول لي إنه يرى طرف يدي، أدعوه لأن يفعل مثلي، لأن يخرج يده وأن يحرر ذراعه ويديره باتجاه اليسار كي نلمس بعضنا البعض. إنه لا يفعل، أصر، لا جدوى، إنه لا يفعل، لا يمكنه أن يفعل، لا يسمح لنفسه بهذا الطرف أمام رفاقه. هم أيضا لم يلمسوا امرأة منذ شهور. أغادر المغاسل، أغادر سجني الجديد، أعود إلى بيتي، إلى سجني القديم. لم أعد مصابة بمرض، أصبحت مصابة بالخيبة.
On écoutait un extrait de « Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe », un film de Hala Al-Abdallah. Hala, sans résumer ou traduire tout ce qu'on vient d'entendre, mais peut-être quelques mots pour expliquer cette voix, ce qu'elle dit.
Je raconte dans ce film c'est-à-dire le passage en prison. Quand j'étais en prison, il y avait mon amoureux aussi. Alors, c'est une histoire réelle. J'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers la prison où il était, lui. Et j'étais dans un endroit où j'ai pu aller à côté de la pièce, dans une salle de bain, où j'ai fait pénétrer ma main à travers la fenêtre pour essayer de toucher à sa main à lui. Et ça, je l'ai fait, c'est-à-dire c'était travailler pendant des mois pour pouvoir arriver à cet instant. Et à ce moment-là, lui, il refuse de toucher ma main en me disant qu'il ne s'offre pas, il peut pas se permettre devant ses camarades qui ont jamais touché, qui ont pas touché une femme à une femme depuis des mois. Il veut pas toucher à maman. Donc, je raconte ma déception. Et en même temps, je comprends, c'est un militant qui respecte ses camarades et qui respecte les sentiments de ses camarades. Donc.
C'est un peu pur et dur quand même, comme, bon, enfin, c'était votre amoureux, on ne va pas le critiquer, hein, mais quand même, bon, quelle intégrité. Peut-être sur vos trajets respectifs à toutes les deux, Alain et Monica. D'un côté l'exil, le départ de la Syrie pour venir vous installer à Paris, Alain. De votre côté, le choix d'aller vivre au Liban, Monica. Deux trajets croisés, on pourrait dire, hein, d'un côté quitter l'Orient et de l'autre y venir. Mais dans les deux cas, se sentir étrangère un peu quelque part. Comment est-ce que vous avez l'une et l'autre éprouvé, si vous l'avez éprouvé, ce sentiment d'être étrangère là où vous êtes ? Monica, Hala.
Moi, je me sens pas étrangère en France parce que j'ai un rapport très normal. J'étais en train de faire des études et puis j'étais là pour travailler, pour profiter de ce pays magnifique. Et j'ai jamais eu cette impression que je suis étrangère en France, mais je me sens étrangère dans le monde entier. C'est-à-dire, je suis pas vraiment là où je dois être. Dans la vie ou dans... Donc, c'est vrai que j'ai un sentiment d'exil, mais pas par rapport à... C'est pas géographique du tout. Et puis, je pense qu'il y a aussi une différence entre mon rapport avec là où je vis et là où je travaille, parce que je travaille toujours dans la région, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, mais pas du tout en France. Mais c'est toujours un départ de la France vers la région, parce que c'est là-bas où je sens que c'est utile que j'arrive à travailler. Parce que la France n'a pas besoin de moi.
Monica Bruckmann.
Je vis depuis 20 ans, quelque part 20 ans au Moyen-Orient, d'abord en Égypte, après maintenant à Beyrouth. Et c'est le lieu où... Je me sens le mieux, je dirais. Je sens aussi que c'est un lieu où, comme on a une démarche, on a une organisation qui s'appelle OMAM, on a une démarche de traiter la mémoire, de faire un travail sur la mémoire. Et Beyrouth, aujourd'hui, je sens que, quelque part, qu'est-ce qu'on fait peut avoir un impact. Moi, je partage un petit peu qu'est-ce que Hala dit. Moi, je me sens jamais. Bon, je n'étais jamais dans ma vie en exil et je ne me suis jamais sentie dans ma vie nulle part en exil. Mais par contre, il y a plein de lieux où je me sens chez moi sans être jamais vraiment chez moi. J'ai perdu un peu le contact avec l'Allemagne. Peut-être moi, je me sens plus à l'aise aujourd'hui à Paris que dans ma vie natale en Allemagne. Entre-temps, j'ai passé 2 ans à Paris. J'étais souvent. Et moi, il y a plein de lieux où je me sens vraiment d'un côté, je me sens chez moi et je suis consciente que, je ne suis pas à 100% chez moi.
On arrive bientôt à la conclusion de cette émission et je voudrais proposer à Nicolas Féodorov, tu l'avais évoqué tout à l'heure, d'évoquer quelques-uns de ce qui pourrait être, malgré leurs grandes différences, des points communs entre ces deux films, de trajets différents, de personnalités différentes, de sujets différents, et pourtant peut-être quelque chose qui les rassemble. Et ce serait quoi, Nicolas ?
Vaste question, effectivement, j'évoquais ça assez brièvement. Je dirais, il y a autant de choses qui les rassemblent que de choses qui les différencient. Tout à l'heure, je voudrais peut-être revenir sur des choses, sur deux, trois interventions d'Alain et de Monica tout à l'heure concernant cette question de la mémoire. Il reste quand même quelque chose d'absolument radicalement différent entre ces deux films. C'est que Alain utilise, je dirais, les moyens du cinéma pour aller essayer de retrouver quelque chose de ce qui est une part peut-être perdue et en même temps une part qui est en reconstruction. Donc cette part de passé, cette part d'espace, de géographie qui lui échappe et que c'est non pas aller chercher la mémoire, je sais pas si ça se cherche la mémoire, en tout cas ça se construit la mémoire, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'élaboration, et que c'est une démarche qui lui est propre, c'est une démarche qui est tout à fait qui est individuelle, et c'est aller vers quelque chose et se construire et construire vers quelque chose. Et que le film de Monica Lokman-Slim, d'ailleurs, et Herman Typhon, qu'on a pas cité, donc, qui avait été montré au FIJ, je crois, en 2005, si ma mémoire est bonne, est un film différent, parce qu'on ne l'a pas trop évoqué tout à l'heure. Vous êtes quand même, vous avez dû proposer ou faire une annonce, aimerait, ou je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Nous voudrions avoir des récits de ces tortionnaires. Je pense que ce n'est pas évident d'aller chercher ces récits-là, et que ces gens-là, d'une certaine façon, me semble-t-il, sont peut-être dans une position assez paradoxale, à la fois de ne pas pouvoir raconter. Certains, j'irais, en sont presque encore fiers d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et puis, néanmoins, ce désir de faire sortir par la parole quelque chose qui est cette expérience. Donc là, on va chercher quelque chose là où les gens ne vont pas forcément spontanément le dire, et puis le contexte politique, bien sûr, qui l'interdit, et puis aussi les risques physiques qu'eux prennent aussi s'ils étaient repérés. J'imagine que c'était un des contrats implicites, ou même presque plus qu'implicites, même très précis, j'imagine, avec eux, de ne pas voir leur visage. Donc on est dans un travail, je dirais, d'enquête sur soi dans le film d'Ala, et enfin, vous m'arrêtez. Ben, si vous m'interrompez, bien sûr, si vous... je suis pas là pour faire la conclusion, mais c'est un sentiment comme ça général sur ce qui a été dit, et que le film de Monica Lokman et Herman Tyson, c'est vraiment quelque chose d'essayer de garder tant qu'il est encore temps des témoignages, alors même si le terme de témoignage peut paraître un peu bizarre, parce que ce sont des témoins un peu bizarres, ce sont des témoins avec ce double statut du témoin, qui est le témoin également l'acteur, donc c'est-à-dire les porteurs de ses actes, et en même temps ceux qui les restituent, avec leur position qui est la leur, de vouloir parfois se justifier, ou parfois de rentrer un petit peu dans le détail. Donc on est dans une position assez éloignée, mais peut-être dans l'un comme dans l'autre, s'il fallait chercher des liens, donc il y a la place de la parole, très 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 importante dans l'un comme dans l'autre, de la parole qui essaye de, par une espèce d'élaboration, essayer de trouver quelque chose, les mots justes, et puis faire advenir quelque chose, et puis peut-être cette parole qui n'est pas celle, en tout cas dans le film de Monica, dans Massacre, de cette parole qui nous transmet quel type d'expérience, une expérience qu'on souhaite ne jamais vivre, quel que soit le côté, bien sûr, où on se trouve, ça c'est une évidence, mais en même temps c'est une espèce de récit de jusqu'où peut buter finalement cette question de la transmission.
Alaa Abdallah.
Moi, je veux dire seulement une chose, que je pense entre nous les deux, il y a un point commun entre les deux films, c'est de briser le silence. Sauf que un silence chez moi qui est un silence noble, parce que c'est un silence c'est les femmes qui étaient muettes parce que le pouvoir politique et parce que la société, et un silence touché par, c'est-à-dire un silence fait par le sang. Par la violence qui est dans le film de Monica. Donc de briser les deux silences.
Tout à l'heure, Nicolas Féodorov parlait de paradoxe. C'est un art magnifique que le cinéma, qui permet que les points de vue opposés puissent rentrer dans le même cadre. C'est peut-être un des rares espaces qui permettent ce paradoxe-là. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Alaa Abdallah, Monica Borgman et Nicolas Féodorov.
Merci.
Je rappelle que ces deux films, Massacre et Je suis celle qui porte des fleurs vers sa tombe, étaient proposés et programmés dans le cadre des 5e rencontres à l'échelle. C'était samedi 20 novembre 2010. Et dans la continuité de cette programmation cinématographique orientée vers le Moyen-Orient, je vous recommande vivement Ramallah, mon amour. C'est un film de Natacha Muslera et il est à voir samedi 27 novembre à 18h30. C'est au banc public, rue Ricard, dans le 3e arrondissement. Ce soir, lundi 22, à 17h, l'Afrique humiliée, autour d'Aminata Traoré, c'est à l'école centrale de Marseille, ou bien peut-être sur les ondes de notre consoeur Radio Galère. Merci à Djilali qui était à la technique de cette émission.